Bonjour à tous. Exil, plus lourd que les mots, le choc des photos. L'historien Bruno Cabanne retrace un siècle de réfugiés dans un livre mi-texte, mi-photo publié au Seuil. Une photographie qui peut déshumaniser, ficher, répertorier comme humaniser et rendre au sujet mémoire et identité. On en reparlera avec notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, danseuse à l'Opéra de Paris, égérie de la marque Repetto, Dorothée Gilbert raconte sa trajectoire d'étoile dans un livre publié au Cherche Midi avec les photos de James Bohr. Du Lac des Cygnes à Raymonda, plusieurs rôles, titres qu'elle a déjà endossés. Elle sera, à partir du 2 décembre, l'héroïne de ce ballet de Rodolphe Nureyev à l'Opéra Bastille. Elle est surtout, pour l'heure, notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et bonjour à vous, Dorothée Gilbert.
Bonjour.
La danse classique, écrivez-vous, ce n'est ni un joli truc rose et cucu, ni un univers sordide et brutal à la Black Swan. C'est quoi alors la danse classique ?
C'est un univers de gens passionnés qui se dédient à leur art et qui essayent de se surpasser au jour le jour, de repousser leurs limites. Ce sont des moments forts en scène, ce sont des histoires que l'on crée avec les partenaires. C'est plein de choses.
Si c'est un univers ni rose ni noir, que vous deviez choisir, retenir une couleur pour le définir,
ça serait le jaune, la lumière.
Celle de la scène ?
Celle de la scène, celle de ce vers quoi on tend dans notre chemin, dans notre parcours, pour devenir danseuse étoile. On est censé être une étoile, donc intouchable mais lumineuse, brillante. Sur scène, c'est ce qu'on essaye d'être et de travailler au quotidien. Et aussi parce que j'espère qu'à travers les spectacles, les spectateurs ressentent des émotions, oublient leur quotidien. Et justement, et cet espoir ou cette lumière qui rentre un petit peu en eux et qui repartent un peu à la maison avec.
Tout ce travail qu'on doit donner, livrer pour devenir danseuse, encore plus danseuse étoile, en tout cas danseuse professionnelle, il se concrétise le jour où, justement, on accède à la scène, où on pose la première pointe sur le plancher d'une scène.
En fait, le travail ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que on tend tous vers la perfection. Et la perfection, malheureusement ou heureusement, n'existe pas. Donc en fait, le travail, c'est vraiment un chemin qui va nous amener le plus loin possible par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos capacités. Et on s'arrête jamais de travailler. Et c'est ce qu'il y a de beau aussi, c'est que finalement, on a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à améliorer et on s'ennuie jamais.
Est-ce que le travail, la technique, permet quand même parfois l'abandon ?
Bien sûr, c'est même indispensable pour pouvoir atteindre l'abandon. C'est-à-dire que quand on se prépare pour un spectacle, il faut que la technique soit sûre et qu'elle soit travaillée et aboutie pour que, une fois qu'on justement on pose le pied en scène. Et on n'est plus besoin de penser à la technique, mais seulement au personnage. Et quand on pense au personnage, c'est à ce moment-là qu'on s'abandonne totalement dans les bras du partenaire ou en écoutant la musique, etc. Donc c'est vraiment la condition pour pouvoir accéder à l'abandon.
Et s'abandonner, c'est quoi pour vous, Dorothée Gilbert ?
S'abandonner, c'est lâcher prise, c'est ne plus vouloir contrôler, mais laisser les émotions contrôler et diriger le mouvement. Ça passe aussi par une confiance très forte en son partenaire, de se dire qu'on peut aller dans n'importe quel extrême, il va être là pour nous soutenir. Et en fait, l'abandon, pour moi, c'est ne plus être soi et lâcher prise justement sur ce qu'on est pour être quelqu'un d'autre.
Il y en a un partenaire qui vous a un jour planté, fait défaut, en public, au moment d'une représentation d'un ballet.
Pauvre, oui. C'est un danseur étoile qui est parti à la retraite maintenant, qui est un excellent danseur étoile. Et malheureusement, dans son entrée, pour sa variation, il s'est claqué le mollet. Donc il a été obligé d'abandonner. Et c'était le spectacle de Cendrillon. Donc il y a tout un moment, tout un passage où je rentre sur scène, où je découvre le bal, entre guillemets, où il y a les photographes qui sont là, etc. Et où je suis censée danser avec lui. Comme il n'était pas là, c'est le producteur qui faisait un autre rôle et qui a pris sa place. Bon, jusque-là, dans l'histoire, ça pouvait encore passer que je danse avec le producteur qui réalisait le film, puisque dans le Cendrillon de Rudolf Nureyev, je suis censée vouloir devenir actrice. Donc le set, c'est comme un tournage de cinéma. Donc je dansais avec le producteur, jusque-là ça allait, mais à un moment donné, il y a un grand pas de deux, justement avec l'acteur vedette, et je sais que à ce moment-là, je ne savais toujours pas qui allait remplacer le danseur qui s'était blessé, je ne savais toujours pas avec qui j'allais faire ce grand pas de deux qui dure quand même 10 minutes. Et en plus, je suis située à l'avant-scène sur un tabouret face au public, donc je vois absolument pas ce qui se passe derrière mon dos.
Et contrairement à nous à la radio, vous n'avez pas d'oreillette.
Et je n'ai pas d'oreillette.
Personne ne peut vous prévenir. D'accord. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous jetez des coups d'œil tétanisés en coulisses?
Non, je ne pouvais pas regarder. Et en plus, il y a à peu près 2x8 de musique. Donc c'est, on va dire, je ne sais pas, 15 secondes où la musique du pas de deux commence et où le prince arrive vers moi et me touche l'épaule. Et à ce moment-là, je me retourne et on commence le pas de deux. C'est comme ça que ça se passe. Et donc dans ma tête, quand la musique a commencé, je me suis dit, mais comment je vais faire s'il n'y a pas quelqu'un qui me touche l'épaule, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'improvise pendant 10 minutes une variation sur scène. Je me disais, mais ça va être la catastrophe. Et puis tout d'un coup, finalement, quelqu'un m'a posé la main, je me suis retournée et j'ai vu un premier danseur, Florian Magnonnet, qui était là avec la trace de l'oreiller sur la joue parce qu'il était en train de dormir dans sa loge, les cheveux comme ça, mais
pétard.
Il avait en pétard, oui, pardon, on a la radio, on ne voit pas, donc les cheveux en pétard. Et le costume mis un peu n'importe comment comme ça, et on n'avait jamais répété, et ça s'est très bien passé parce que c'est la magie du spectacle, c'est-à-dire qu'on est très à l'écoute du coup l'un de l'autre, on essaye de comprendre ce que l'autre va faire pour que justement, techniquement, ça passe alors qu'on n'a jamais répété ensemble.
Et c'est ça qui est fascinant avec les danseurs, notamment de l'Opéra de Paris, c'est votre capacité, comme les chanteurs d'ailleurs, c'est un peu pareil au lyrique, à interpréter combien, des dizaines de rôles différents pendant l'année, de pouvoir passer d'un rôle à l'autre d'ailleurs au même moment parfois.
En fait, plus on danse les rôles, plus le corps s'en souvient et plus c'est facile de les reprendre après. Plus, en fait, il y a une mémoire corporelle. Hein. Donc, très clairement, en plus, comme on danse quand même énormément de ballets classiques chorégraphiés par Rudolf Nureyev, on a quand même l'habitude de justement cette manière de danser, qui est quand même un petit peu particulière aussi. Et qu'on fasse Cendrillon ou Raymonda ou d'autres ballets, on ressent quand même cette même patte de Rudolf Nureyev, et du coup c'est vrai que le corps est habitué à cette technique et c'est de plus en plus facile de passer de l'un à l'autre.
Voilà, le russe Rudolf Nureyev, ancien directeur de la danse à l'Opéra de Paris, c'est d'ailleurs lui qui a importé Raymonda, ce ballet, au sein de notre institution parisienne. Dans un peu moins d'un mois, vous reprendrez donc ce rôle-titre du ballet de Nureyev, créé fin 19e au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, composé par Alexandre Glazounov, mis en pas par Marius Petipa. La première fois, quelle femme est-elle, cette Raymonda que vous allez interpréter?
Pour moi, Raymonda, c'est tout au long du ballet, il y a une évolution entre la jeune fille qu'elle est au début, telle qu'on la présente, et la femme qu'elle devient au troisième acte. Et ça passe par, justement, quand elle est jeune fille, elle est promise à un prince qui s'appelle Jean de Brienne. Et du coup, elle est toute dans l'excitation de cet amour, du mariage qu'elle va vivre, etc. Et puis, entre-temps, elle rencontre Abderrahme qui la perturbe profondément parce qu'il est d'une grande sensualité, d'une grande félinité. Il est très puissant et elle est fascinée par cet homme. Je pense que ça lui réveille des choses en elle qu'elle ne connaissait pas. Et puis après, il y a du coup la bagarre entre son prince qui arrive et cet Abderrahme parce qu'ils sont un peu tous les deux amoureux d'elle. Finalement, c'est Jean de Brienne qui gagne, évidemment, et elle se marie avec Jean de Brienne. Et on voit justement quand elle se marie, donc au troisième acte, qu'elle a découvert un peu la sensualité, la féminité et le rapport qu'elle pouvait avoir avec les hommes, en fait.
Ouais, elle n'était pas aussi oie blanche qu'elle en avait l'air, voilà. Ni signe blanc d'ailleurs. Être étoile à l'Opéra de Paris, c'est pas une fin en soi. Vous le racontez, vous l'écrivez, ce n'est pas être arrivé. C'est un passage vers quelque chose d'autre. Une nomination en 2007, après avoir dansé Casse-Noisette avec Manuel Legris, que vous qualifiez comme votre idole, on l'écoute.
L'interprétation, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard. À vrai dire, quand j'ai commencé à être étoile, je pensais vraiment au côté technique. Honnêtement, hein, le côté d'interprétation, ça, pour moi, ça paraissait un peu secondaire, parce que j'avais la sensation, quand on est très jeune, que si on danse bien et qu'on fait tous les pas et que le public est impressionné par la technique, ça suffit. Et en vieillissant, comme on perd un peu le côté technique, un peu la facilité avec le physique, tout d'un coup, on se dit, ah, là, peut-être qu'il faut que je fouille un peu plus loin, que ça serait peut-être bien que je devienne un artiste. Voilà. Je pense pas qu'on est, alors, on est artiste d'une certaine, on peut l'être à 20 ans, mais en même temps, je pense qu'à 40 ans, on l'est, de fait. Moi, je me suis aperçu, même en reprenant certains rôles que j'avais dansé dans ma prime jeunesse, que j'étais passé à côté, que j'avais simplement effleuré le sujet, je le dansais bien parce que j'avais la technique, mais par contre, artistiquement, j'avais pas cherché à raconter grand chose. Je pensais que ça allait découler de, voilà, simplement en faisant des jolis pas, une jolie technique, que ça suffisait.
Alors Manuel Legris, il a fait ses adieux en 2010 avec Onéguine. Il a été précédemment, 14 ans plus tôt, nommé danseur étoile par Nourrieff lui-même. C'est quelque chose. À l'issue d'une représentation de Raymonda, justement, où il interprétait Jean de Brienne. Cette nomination, est-ce qu'elle vous a permis d'accéder à d'autres rôles ou d'accéder en tout cas à ces rôles autrement, comme le dit Manuel Legris? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous a permis à vous de passer un cap qui vous a fait découvrir réellement la force de l'interprétation?
J'ai envie de dire, contrairement à Manuel Legris, moi, ce qui m'a le plus plu quand j'ai voulu être danseuse, c'était l'interprétation des personnages. C'est-à-dire que finalement, les pas, c'était un moyen, un langage. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était raconter des histoires. Finalement, la technique, c'est comme moyen pour arriver à ses fins. Et donc, moi, pour moi, l'interprétation, ça a toujours été très important et je le mettais plus en avant que la technique. Mais en même temps, je peux dire ça parce que la technique, je l'ai énormément travaillée et quand je suis en scène, c'est pas quelque chose qui me tracasse. Donc, je peux me permettre de justement m'abandonner et penser à l'interprétation. Je me souviens à l'école de danse, quand Claude Bessy finalement m'a choisi pour faire la gitane, je faisais les quatre gitanes, mais ce qui plaisait aussi, c'était l'interprétation que je mettais dans ces quatre gitanes, le côté un peu espagnol, même si c'est pas du jeu parce que je suis à moitié espagnole, mais quand même, j'aimais bien mettre du caractère, etc. Donc, je pense que ça a quand même été des qualités qui m'ont suivi un peu depuis le début. Mais c'est sûr que quand on est nommé étoile, on a accès à tous les rôles d'interprétation, tous
et
les rôles
de titre. Vous avez trouvé cette richesse de palette, parce que vous le disiez, il y a beaucoup encore à l'Opéra de Paris de ballets de Nourrieff qui sont mis en scène et repris aujourd'hui, qu'on pense à Casse-Noisette, à Cendrillon, au Lac des Cygnes. Est-ce que c'est pas toujours finalement la même émotion ou le même type d'émotion que vous incarnez?
Oh, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il y a pour chaque type de ballet, il y a une émotion, il y a un personnage avec son histoire, l'histoire qu'elle a vécue avant, qu'elle va vivre après. C'est-à-dire que c'est quand on interprète Roméo et Juliette, on va pas l'interpréter de la même manière qu'Onéguine. On va pas l'interpréter de la même manière que Manon. Ce sont des personnages qui sont tous hyper intéressants psychologiquement et justement c'est intéressant d'aller fouiller leur histoire pour essayer de comprendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont réagir comme ça tout au long du ballet et ça va nourrir justement l'interprétation. C'est hyper important de se renseigner un peu sur, surtout quand il y a des livres, par exemple Manon, il y a le livre Manon Lescaut, donc il y a pour Roméo et Juliette, il y a le livre, il y a eu plein de films, il y a eu plein de choses qui ont été faites sur ce sujet-là, donc c'est hyper intéressant justement d'aller fouiller dans les personnages, voir comment chaque interprète a interprété Juliette avec justement ses propres émotions et d'arriver après avec tout ça à l'oublier pour en faire sa propre Juliette.
Si vous deviez en garder un rôle, le costume que vous avez préféré revêtir costume. Et endosser
Ou personnage.
Ça va un peu ensemble, la peau que vous avez préférée
C'est difficile. Manon, je dirais.
Donc ça, c'est pour le personnage.
C'est pour le personnage. Et le costume aussi,
et le costume,
finalement.
Qui était comment?
Je le porte dans les portraits d'étoiles, justement, parce qu'on nous a demandé de choisir le costume qu'on préférait. Et j'ai choisi le costume de Manon de la Chambre, qui est un costume un peu à corset, serré pour faire remonter un peu la poitrine, avec un croisillon devant, couleur beige. Très sensuel, mais très simple. Très beau.
Voilà, il fallait choisir et n'en choisir qu'un. Vous avez joué le jeu. Est-ce qu'à travers tous ces rôles qui vous ont marqué, il y a eu aussi pour vous un apprentissage de la féminité? Parce qu'on va y revenir sur le rapport qu'ont les danseurs avec leur corps et le vôtre, comment il a pu évoluer. Mais est-ce qu'on arrive en fait aussi à se trouver quand même un peu soi-même en se glissant dans la peau des autres?
Je pense qu'en effet, le fait d'interpréter des personnages, de se glisser dans la peau d'autres personnes, on se rend compte à quel point on a peut-être des facilités pour interpréter telle ou telle émotion, et c'est ce qui va nous définir aussi en tant que personne après. Quand on interprète des personnages, il y a des personnages pour lesquels on se trouve bien plus proche, et d'autres où c'est beaucoup plus difficile d'aller interpréter ces émotions parce que nous, on réagirait pas comme ça. Et donc je pense qu'en effet, à travers tout ce travail d'interprétation, on arrive à mieux se connaître. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream I'm dreaming. If I ain't wrong, I don't feel right. Never thought you were leaving. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish me a dream?
Sixième album du Canadien Patrick Watson, attendu en France en février et mars prochain sur scène. Son titre « Wave, la vague » en anglais. Il raconte justement dans cet album, à travers plusieurs titres ici, « Dream for Dreaming », les vagues d'événements et de mélancolie qui parfois vous submergent et parfois aussi vous emportent.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et des vagues de bonheur et de mélancolie, des vagues de doute, peut-être aussi, il y a dû y en avoir dans votre vie, Dorothée Gilbert. Vous dites que vous avez commencé la danse et qu'à ce moment-là, quand vous y avez cru, quand vous avez eu envie d'y aller, vous êtes allée contre votre nature, que vous avez dû corriger votre corps et vos défauts, en somme, pour devenir danseuse. Il y a des natures qui ne prédisposent pas à la danse?
C'est une question un petit peu difficile parce que, justement, j'avais énormément de défauts quand j'étais jeune et à travers le travail, j'ai réussi justement à pas en faire des qualités, mais au moins à les effacer pour qu'on les voit plus. Je pense qu'il y a déjà deux grands types de danseuses, c'est-à-dire qu'il y a des danseuses qui sont très musclées naturellement et qui ont besoin de travailler la souplesse et qui ont du coup une bonne coordination, peut-être une facilité à faire la technique, et les types de danseuses qui sont très souples et qui du coup au contraire doivent se muscler pour arriver à faire la technique et à faire les mouvements correctement. Une prédisposition, je sais pas, je pense que il faut quand même avoir un corps. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de la danse si on a un physique.
Vous n'étiez pas sûre de l'avoir, ce corps, au début ?
Alors moi, j'étais pas sûre. Enfin, je l'avais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai des hanches très étroites, donc le bassin est assez fermé, et ce qui fait que du coup, j'arrive pas à être en dehors, c'est-à-dire comme les grenouilles, vous voyez, les cuisses sur le côté là. Et du coup aussi, ça fait que je n'ai pas une grande souplesse. Et il a fallu que je travaille tout ça avec des cours de barre au sol quand j'étais petite. Encore aujourd'hui, je fais du yoga pour m'assouplir tous les jours. C'est vraiment... Enfin voilà, je sais que c'est mon défaut et il faut que j'y pense tout le temps.
Voilà, vous pouvez quand même en parler un peu au passé, parce que dire aujourd'hui que vous n'avez pas une grande souplesse, c'est toute proportion gardée par rapport à la majorité d'entre nous.
Oui, même. Voilà, bon. Par rapport au commun des mortels, c'est sûr, évidemment, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais... Par rapport à une danseuse comme Sylvie Guillem, par exemple, pour prendre qu'elle comme exemple, qui met la jambe derrière l'oreille, moi, je suis pas à 180 degrés, je suis à 110.
Adjugée, aussi dure que généreuse, c'est comme ça que vous qualifiez Claude Bessy, directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris, à l'époque où vous y entrez.
Quand un enfant se présente et qu'il a 9 ans et qu'il a pratiquement pas fait de danse, c'est un critère physique, savoir si la morphologie correspond à un physique longiligne, s'il n'y a pas de problème de colonne vertébrale, s'il y a une laxité d'articulation, s'il y a une possibilité d'en dehors, s'il y a un pied ou s'il n'y en a pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a un coup de pied ou est-ce qu'il y a un pied très raide qui ne pourra pas s'assouplir. Tout ça, ce sont des critères uniquement que la nature leur a donné. Donc on ne se base que sur les dons de la nature. Parce que je ne veux pas faire ce qu'il nous était fait il y a quelques années. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir des qualités naturelles, mais j'ai des tas de camarades qui ont fait de la danse avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de difficultés parce que la nature ne leur avait pas donné. Bon, j'ai des gravures, j'ai des livres sur tout ça où on forçait les enfants. C'est-à-dire que pour la position en dehors, elle n'est pas toujours naturelle et on forçait les enfants. On leur mettait les pieds dans les boîtes, on leur montait sur les genoux quand ils étaient en tailleur pour essayer de les ouvrir. Enfin, je veux dire, des choses qui étaient pratiquement de la limite de la torture. Moi, j'estime que le métier est trop difficile pour tout ça et qu'il faut que l'enfant ait au départ des qualités physiques naturelles.
Voilà. Comment se fabrique-t-on dès lors un corps de danseuse, une seconde nature par l'entraînement ? Vous le dites, Dorothée Gilbert. Hein ? Ce que dit Claude Bessy, c'est quand même...
Oui, je suis d'accord avec elle et pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand je prenais les cours de barre au sol, justement, j'avais mon professeur qui me montait dessus pour écarter les genoux, pour pousser l'en dehors, pour assouplir, etc. Donc, je pense qu'un corps d'un enfant est quand même très malléable. Quand on travaille et quand on a envie de travailler une certaine chose, je pense qu'on peut l'obtenir jusqu'à un certain degré. Je pense qu'on peut vraiment forcer un peu le physique de quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, la souplesse, je serai jamais comme Sylvie Guillem, mais je lève plus haut les jambes qu'avant. Et l'en dehors, c'est pareil. Et le placement, etc., c'est pareil. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui... C'est important pour les jeunes aujourd'hui qu'ils arrivent à comprendre, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et ils venaient vers moi et ils me disaient « Mais de toute façon, je pourrais jamais être danseuse, je suis pas assez souple. » Et moi, quand j'entendais ça, j'avais les poils qui se hérissaient. Je me disais, mais non, si vous avez vraiment envie de quelque chose, il suffit d'être passionné, de dédier énormément de temps et de travail, et vous y arriverez, c'est sûr.
C'est simple et c'est pas si simple, parce qu'il y a aussi dans cette école, et vous le racontez, une pression intense, un entraînement qui est sans relâche. C'est le régime de la terreur, dites-vous à un moment dans ce livre, sans un tempérament de fer. C'est aussi une formation à vous lire, on imagine, qui peut casser, qui peut pousser aussi ses enfants encore à craquer, hein, avant d'arriver même au bout de leur formation.
C'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais je pense que dans tout apprentissage, il y a des moments où on se remet en question. Tout n'est pas forcément simple dans la vie, de toute manière. Je pense que quand on est passionné et qu'on a vraiment envie de quelque chose, justement d'arriver à ce but-là, donc d'être danseur ou autre chose, même dans la vie, on est prêt à mettre le mouchoir sur certains passages qui sont peut-être un peu douloureux ou pas forcément comme on l'aurait souhaité, mais qui vont nous permettre d'accéder à ce que l'on souhaite pour après justement être libre.
Mais tout n'est pas forcément si dur, si jeune. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si tôt, comme vous, que vous avez cette passion. Chaque année, il y a quand même de génération en génération des parents qui inscrivent leurs filles au cours de danse classique du quartier ou au conservatoire s'ils parviennent à avoir une place. Pourquoi vous, vous êtes sorti du lot ? Comment vous avez su que ce serait plus qu'un passe-temps du mercredi, que c'est vraiment votre vie ?
Moi, j'ai su que je voulais être danseuse après avoir vu un spectacle. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la danse, c'était vraiment un hobby de petite fille du mercredi après-midi et je savais pas qu'il y avait un métier qui découlait de ces pas qu'on apprenait à la barre. Et donc, j'ai vu un spectacle, c'était Gisèle, justement, au Capitole de Toulouse. J'ai appris plus tard que c'était Manuel Legris et Noël Pontois qui dansaient les rôles-titres ce jour-là. Donc, bon, c'était un super beau spectacle, je pense. Et quand je suis sortie de là, j'ai été... J'ai été bouleversée parce que d'abord, j'ai compris que les pas que j'apprenais le mercredi après-midi justement servaient à une interprétation, à raconter des histoires, à devenir des personnages, mais en plus qu'il y avait des adultes qui le faisaient. Et donc quand j'ai dit ça à ma mère, mais on peut en faire un métier, enfin ça existe danseur. Parce que c'est vrai, quand on a 10 ans, je sais pas, c'est un petit peu abstrait quand même. Et elle m'a dit mais oui bien sûr, et du coup et je lui ai dit bah, c'est ça que je veux faire. Pour moi, ça a été une évidence.
Le difficile concours d'entrée à l'école de danse, il a été raconté, formalisé par Ballerina, aussi le film d'animation qui a été beaucoup vu à sa sortie par les enfants, surtout quand on n'est pas né dans le chaudron, hein, comme Félicie, la petite orpheline bretonne, comme vous aussi, qui êtes quand même arrivée du quartier des Minimes à Toulouse, avec cette entrée en deux temps, puisque vous l'avez ratée la première fois, réussie la seconde. Ce qui est très touchant, et vous le racontez, c'est la manière dont vos parents vous ont accompagné dans vos choix, en déménageant notamment à Paris pour vous suivre une fois acceptée dans l'école, sans jamais vous pousser. Et on imagine que c'est maintenant que vous êtes mère et que vous avez une petite fille qui aura cette passion ou une autre, toute la question de l'équilibre que vous allez chercher à retrouver. Comment on soutient un enfant sans le régir, sans le régenter dans ses envies et ses choix?
Je pense que c'est assez compliqué, mais il faut surtout être à l'écoute, je pense, de son enfant, essayer de voir si c'est une véritable passion ou s'il veut le faire juste pour ressembler à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on ressent quand son enfant est vraiment passionné par quelque chose, parce que moi je l'ai vécu, donc je sais comment j'étais.
À 36 ans, pour vous, Dorothée Gilbert, il est trop tôt pour se poser la question de l'après ?
Bah non, il n'est pas trop tôt justement, ça arrive vite. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement on se rend compte que depuis l'âge de justement 10 ans, on a vécu pour une passion très forte qui est celle de la danse, et qu'à 42 ans ça se termine, du moins à l'opéra. Mais de toute façon, tôt ou tard, ça se terminera parce que le corps, il danse pas non plus jusqu'à 60 ans. Donc, il va falloir que ça se termine un jour. Et je pense que c'est un moment qui est difficile. C'est une sorte de mini deuil dans sa vie pour renaître sur quelque chose d'autre.
Merci à vous beaucoup, Dorothée Gilbert, d'avoir été avec nous. Étoile, avec ou sans S, votre livre autobiographique avec ses photos de James Bort est à retrouver aux éditions du Cherche Midi. Merci.
Merci.